le journal.
Le journal est présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Pas de blabla, du combat. Le ton est donné par Jean-Luc Mélenchon pour la rentrée. Il a prononcé un discours très offensif en clôture de l'université d'été de son mouvement La France Insoumise à Marseille. Analyse de Sophie Delpont dans quelques instants. À droite, le campus des jeunes républicains qui se déroulait ce week-end au Touquet n'a pas été un franc succès. Quelques 300 militants avaient fait le déplacement. Il a bien sûr été question de l'élection pour la présidence du parti. Elle soulève des inquiétudes dans les rangs de la droite. Stéphane Robert nous expliquera pourquoi. Au Texas, l'ouragan Harvey continue de faire des ravages. Deux personnes ont déjà trouvé la mort. Nous serons en ligne avec notre correspondant Philippe Randé qui est à Houston. Les habitants sont invités à ne pas sortir de chez eux par les autorités. Et puis l'armée libanaise marque une trêve dans son offensive contre l'organisation État islamique. Il s'agit de négocier le sort de prisonniers. Nous entendrons les précisions de Nicolas Feldman, notre correspondant à Beyrouth. La France Insoumise vient donc de clôturer sa toute première université d'été. Le mouvement a tout juste un an et demi d'existence, mais il a rassemblé durant 4 jours plus de 3000 militants à Marseille. Ils ont débattu ensemble des orientations et des actions à mener à la rentrée. Le point d'orgue de cette grande réunion était bien sûr le discours de son leader Jean-Luc Mélenchon en fin de matinée. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous êtes donc sur place à Marseille. Alors, premier objectif de ce discours de Jean-Luc Mélenchon, lancer bien sûr la mobilisation anti-loi travail.
Oui, très offensif, le verbe haut sous un soleil de plomb. Jean-Luc Mélenchon a retrouvé les accents de la campagne présidentielle, mais cette fois, c'est en chef de l'opposition qu'il a voulu galvaniser ses troupes pour mobiliser en force dans la rue le 23 septembre prochain, journée test pour la France insoumise.
Car mon appel à celui des insoumises et des insoumis qui sont là, le 23 septembre prochain, il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui.
Un appel scandé à 3 reprises qui tient en une formule.
Pas de blabla, du combat.
L'objectif, c'est de lancer un vaste mouvement de contestation pour tenter de faire reculer le gouvernement sur les ordonnances qui seront présentées en Conseil des ministres le 20 septembre prochain, avant le vote à l'Assemblée nationale. Et plus largement, de profiter aussi de la chute de popularité d'Emmanuel Macron cet été, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon ironise.
On a l'impression qu'on est revenu dans cette ambiance glauque qui était celle du quinquennat précédent.
Le mouvement doit maintenant démontrer sa capacité à mobiliser en dehors des périodes électorales.
Alors, autre objectif de ce discours, c'est de réussir la structuration de la France insoumise pour pérenniser le mouvement.
Oui, et pour cela, démontrer son hégémonie dans la mobilisation populaire est primordial pour éviter une éventuelle dilution de ses forces dans la rue. Jean-Luc Mélenchon n'a d'ailleurs pas appelé dans son discours à défiler le 12 septembre prochain aux côtés des syndicats contre la loi travail. Dans le contexte de recomposition de la gauche, il a promis qu'il n'y aura aucune tambouille avec les partis politiques.
Nous avons réglé le problème de la stratégie. C'est simple, nous ne nous occupons pas de rassembler des étiquettes. Nous voulons fédérer le peuple et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous nous jetons tout entier dans l'action au service du peuple et non pas au service de notre mouvement.
L'enjeu, c'est d'éviter de tomber dans les pièges de la structuration des partis traditionnels en espérant obtenir un ralliement sans négociation sous sa bannière. La mutation viendra après. La convention prévue en octobre est d'ailleurs repoussée au plus tôt à la fin du mois de novembre prochain pour focaliser l'ensemble des forces sur le combat contre la loi travail et le bras de fer face à Emmanuel Macron.
Merci à vous, donc Sophie Delpont en direct de Marseille avec la réalisation technique de Clémence Bonfils. On apprend aujourd'hui que la direction provisoire collégiale du Parti Socialiste va proposer aux militants de modifier les statuts donc du PS avant d'organiser un grand congrès de refondation politique, a priori en février 2018. C'est ce qui a été annoncé à l'issue de 2 jours d'un séminaire à huis clos. À droite, le moral n'est franchement pas à la fête pour les Républicains à l'heure de la rentrée politique. C'était ce week-end le campus des jeunes Républicains au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Un rassemblement qui a attiré relativement peu de militants. Ils étaient 300 tout au plus. Les discussions se sont concentrées sur l'élection du président du parti. Élection qui se déroule les 10 et 17 décembre prochains. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Ilan.
Alors cette élection préoccupe beaucoup les militants. Pour quelle raison?
Parce que la grande crainte, c'est que le futur président du parti, qui sera élu en décembre, fasse
exactement ce qu'ont fait les autres avant lui, Jacques Chirac comme Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il façonne le parti à sa main en plaçant un peu partout ses hommes à lui et qu'il en fasse une machine de guerre au service de la conquête du pouvoir, rien d'autre. Tout le monde voit bien en 2012 comme en 2017 où ça a mené la droite. Et le problème de ces quelques dizaines de jeunes militants du Nord et du Pas-de-Calais réunis tout au long du week-end au Touquet, c'est que c'est bien dans cet état d'esprit que semble se trouver le seul véritable candidat en mesure de l'emporter, Laurent Wauquiez, qui déclarera sa candidature le week-end prochain. Car ce qu'il faut bien voir, c'est que sur l'ensemble du pays, ils ne sont plus très nombreux à jour de cotisation chez LR, c'est-à-dire militants actifs, et comme après chaque défaite, ceux qui restent, ce sont les plus fidèles, les plus engagés, les plus radicaux, et ces militants-là voteront en majorité pour quelqu'un de radical, de tranché, comme Laurent Wauquiez, c'est pour ça qu'il est favori. Pour ça aussi que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ne se présentent pas, et aussi au passage parce que ça relancerait la guerre des chefs. On a donc face à lui Daniel Fass Pascal, député du Touquet, qui n'a quasiment aucune chance, pas plus que Florence Portelli, qui devrait se déclarer d'ici quelques jours. Et le problème avec un Laurent Wauquiez qui se situe très à droite sur des thématiques identitaires chères au Front National, c'est qu'il aura beaucoup de mal à rassembler les différentes sensibilités de la droite républicaine. C'est la raison pour laquelle c'était un peu la soupe à la grimace ce week-end au Touquet. Les rangs des militants sont déjà clairsemés et en plus, ils sont en plein doute sur les perspectives de reconstruction et de renaissance de leur mouvement.
Stéphane Robert, merci. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, appelle aujourd'hui le gouvernement catalan à renoncer au référendum sur l'indépendance qui est prévu le 1er octobre. Il estime que ce projet est, je cite, « la dernière chose que désire la majorité de la société catalane dans ces moments-là ». Il pense que cette consultation est symbolique de rupture, de division et de radicalité 10 jours après le double attentat de Barcelone et Cambrils. Aujourd'hui, le bilan de ces deux attaques est passé à 16 morts et plus de 120 blessés. Le temps est écoulé pour la Pologne. Varsovie avait jusqu'à hier pour modifier sa réforme judiciaire très controversée. C'est en tout cas ce que lui avait demandé la Commission européenne. Le 26 juillet dernier, Bruxelles donnait un mois à Varsovie pour renoncer à des projets législatifs qui sont considérés comme des atteintes à l'indépendance de la justice. Nous sommes donc le 27 août, il n'y a toujours pas eu de réponse de Varsovie. La Commission menaçait de déclencher dans ce cas l'article 7 du traité de l'Union européenne. Cette procédure inédite peut aboutir à une suspension des droits de vote d'un pays au sein du Conseil de l'Union. Le Texas est toujours en proie à Harvey, cet ouragan dévastateur, le plus violent à frapper cet état du sud des États-Unis depuis plus de 50 ans. Le bilan est déjà de 2 morts. À Houston, qui est la plus grande ville du Texas, les autorités appellent les 2,3 millions d'habitants à rester chez eux. Bonsoir Philippe Randet.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant sur place à Houston, alors décrivez-nous l'ambiance générale de la ville en ce moment.
Écoutez, la situation s'aggrave minute après minute ici à Houston. Houston gigantesque, mégalopole, vous l'avez dit, de plus de 2 millions d'habitants, où il est désormais quasiment impossible de circuler. Pour vous donner un exemple, j'ai essayé de sortir en voiture il y a quelques minutes, mais au bout de quelques dizaines de mètres, à droite, à gauche, l'eau sur la route était trop haute. Des centaines de voitures sont recouvertes jusqu'au toit. Plus de 50 cm de pluie sont tombés sur la capitale de l'industrie pétrolière américaine en 24 heures à peine. Des rivières ont débordé et au moment où je vous parle, vous l'entendez sûrement derrière moi, ces pluies diluviennes se poursuivent. Les alertes tornades se multiplient heure après heure. Devant nous ici à Houston, dans les rues transformées en rivières, certains habitants qui ont perdu leur voiture tentent de fuir à pied, en kayak, sur des matelas pneumatiques. Un gigantesque centre de conférence a été transformé en abri. La garde nationale est déployée, mais il est extrêmement difficile et dangereux de circuler. Le gouverneur du Texas l'a dit ce matin, la situation est grave et elle va s'empirer car la tempête Harvey pourrait rester ici dans la région de Houston, au-dessus de nos têtes, plusieurs jours encore.
Merci Philippe Randet. Aux États-Unis, toujours, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a pris ses distances aujourd'hui avec les propos de Donald Trump sur les violences racistes de Charlottesville. On se souvient que le président avait renvoyé dos à dos les suprémacistes et les antiracistes après ces violences meurtrières. Interrogé donc aujourd'hui sur la chaîne Fox News, Rex Tillerson a déclaré, je cite, « Le président parle pour lui-même ». Et de poursuivre, « Nous exprimons les valeurs américaines depuis le département d'État. Nous représentons le peuple américain, son attachement à la liberté et à l'égalité entre les personnes du monde entier. Ce message n'a jamais changé. » Fin de citation. De la lutte armée à la lutte politique, les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, tiennent aujourd'hui leur premier congrès politique à Bogota depuis l'accord de paix signé entre les guérilleros et le gouvernement l'année dernière. Les FARC cherchent donc à exister sur le terrain politique. À l'issue de ce congrès, qui dure jusqu'en milieu de semaine, une nouvelle formation devrait voir le jour. Mais pour Sophie Davio, maître de conférences à Sciences Po Aix et spécialisée sur l'Amérique latine, eh bien, ce nouveau parti des FARC aura bien du mal à se faire accepter par la population et par les autres partis politiques. On l'écoute.
Quelle est leur stratégie électorale? Ils ont annoncé qu'ils n'auraient pas de candidat, mais quel candidat ils vont appuyer? Quel candidat serait, selon eux, le plus susceptible de faire appliquer les accords de paix? Quels députés et quels sénateurs ils vont choisir? Ils ont le droit à 5 sièges au Sénat, 5 sièges à la Chambre des représentants. Et ça va être très intéressant de voir ce qui émerge effectivement de ce congrès. Et puis surtout, comment les autres partis politiques reçoivent les FARC. C'est-à-dire comment les FARC sont perçues par les autres forces politiques en Colombie. Elles ont lancé pas mal d'invitations, notamment des unions, des coalitions possibles, etc., en vue de l'application des accords de paix. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que les FARC sont très mal reçues, y compris par les partis de gauche. C'est tellement difficile auprès de l'opinion publique colombienne que pour l'instant, la majorité des partis se sont bien gardés d'avancer sur ce terrain-là. Donc, est-ce qu'ils réussiront à construire des alliances? Est-ce qu'ils réussiront à changer leur image? Ça va très certainement prendre du temps. L'idée des FARC, c'est de renoncer à la violence, de condamner maintenant et démontrer qu'elle en est capable. Donc, on a un contexte, comme toujours en Colombie, qui reste complexe, plein d'incertitudes dans cette année qui plus est, qui va être une année électorale.
Des propos recueillis par David Ravier. L'armée libanaise démarre une trêve, un cessez-le-feu dans la bataille qui l'oppose à l'organisation État islamique dans le nord-est du pays. Cette pause vise à négocier le sort de plusieurs militaires libanais qui avaient été enlevés dans la région en août 2014. Précision de notre correspondant à Beyrouth, Nicolas Feldman.
Il y a 3 ans, en août 2014, à l'issue de violents combats dans le nord-est du pays, 30 militaires et policiers libanais étaient enlevés. Alors si 16 d'entre eux ont été libérés en décembre 2015, 5 autres sont morts en détention. Et c'est aujourd'hui le sort des 9 soldats restants qui est en jeu. Peu d'espoir de les retrouver en vie. Il y a un peu plus d'une heure, le chef des renseignements libanais annonçait avoir mis la main sur 6 dépouilles. Des tests ADN doivent maintenant confirmer qu'il s'agit bien des corps des soldats enlevés. Ces informations, elles ont pu être obtenues grâce au dialogue instauré avec les djihadistes. Depuis ce matin, les médias libanais font état de négociations avec le groupe État islamique. Les discussions sont menées par le parti chiite Hezbollah et supervisées par le régime syrien. À travers ces négociations, le Hezbollah espère aussi récupérer les corps des combattants du parti morts dans la bataille de Palmyre. En échange, les derniers djihadistes présents à la frontière syro-libanaise pourraient eux être évacués vers Deir ez-Zor, l'un des derniers bastions des djihadistes en Syrie. Ce procédé, ces évacuations, le Hezbollah les avait utilisés pour la première fois au Liban, c'était au début du mois. Des milliers de combattants djihadistes, principalement membres de l'ex-front Al-Nosra, avaient pu rejoindre avec leurs familles et des civils la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie.
Nicolas Feldman, je vous en parlais déjà hier. Aux Philippines, un mouvement de contestation commence à naître contre la politique antidrogue extrêmement répressive, on le sait, du président Rodrigo Duterte. Depuis son arrivée au pouvoir, cette guerre menée contre les stupéfiants a tué, selon les estimations, entre 7000 et 10000 personnes. Le pays vient même de connaître sa semaine la plus meurtrière, avec notamment un lycéen abattu par des policiers. À Manille, les explications de Marianne Dadar.
L'affaire Kian de Los Santos, ce lycéen de 17 ans abattu par des policiers, pourrait-elle marquer un tournant dans la guerre antidrogue aux Philippines? En tout cas, cela fait plusieurs jours que l'on assiste à une mobilisation croissante contre la campagne gouvernementale antidrogue. Exécuté alors qu'il se trouvait agenouillé face contre terre, Kian de Los Santos est devenu le symbole des nombreuses exactions dont la police philippine est accusée. Jusqu'à 2000 personnes, selon un quotidien, ont manifesté hier à Manille à l'occasion des obsèques de l'adolescent. Justice pour Kian, justice pour toutes les victimes des tueries extrajudiciaires, a scandé la foule, dont des jeunes qui ont pourtant élu Rodrigo Duterte à la tête du pays. Et il y avait déjà eu des protestations la semaine passée, qui fut la semaine la plus meurtrière depuis le début de la guerre antidrogue. Autre signe d'un climat moins favorable au président Rodrigo Duterte. Pour la première fois, des sénateurs de sa majorité ont explicitement condamné des tueries jugées injustifiées. Le Sénat a d'ailleurs décidé de lancer une enquête sur l'affaire Kian de Los Santos. Au cours des auditions, les policiers ont ainsi admis avoir établi l'implication, selon eux, de l'adolescent dans le narcotrafic sur l'unique base d'éléments trouvé sur les réseaux sociaux, de quoi renforcer l'opposition à la guerre antidrogue. Quant à Rodrigo Duterte, le président des Philippines a reconnu de possibles bavures policières, sans pour autant changer de cap.
Un œil sur le ciel de demain, hormis quelques petites averses dans l'après-midi du côté des Pays de la Loire, c'est du grand beau temps sur l'ensemble du pays, soleil et ciel bleu au programme. Côté température, demain matin, ça part de 20 degrés près de la Manche et ça monte jusqu'à 31 degrés en Haute-Corse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, elle a été réalisée à la technique par YouTube Diego Aclopes.